puisqu'on va, on va prendre maintenant une série de 6 autres témoignages. Merci de, vous, de les applaudir. Alors, je vais inviter à nous rejoindre sur la scène Isabelle Prade, Jean-Yves Lequellec, Corinne Martinez, Alain Grasset, Jean-Luc Roland et Olivier Verrieste. Voilà, vous vous installez confortablement. Et avec vous, on va voir aussi quelques pratiques que vous avez mises en place ici ou là, qui vont dans le sens de ces coopérations. Et puis, on va voir avec vous également le regard que vous avez sur ce nouveau territoire qu'il nous faut imaginer, et en tout cas, pour lequel vous êtes tous présents cet après-midi et demain, probablement. Alors, je vais vous présenter nos intervenants. Sur la gauche, vous avez Alain Grasset, qui est conseiller communautaire de Grenoble-Alpes-Métropole et maire d'une commune.
Adjoint au maire.
Adjoint au maire. La commune, c'est ?
Fontaine.
Fontaine. Voilà. À vos côtés, Jean-Yves Lequellec, qui est directeur de l'offre de soins et de l'autonomie à la RS Languedoc-Roussillon. Isabelle Prade, qui est à la direction générale de l'offre de soins. Je ne vous présente pas Corinne Martinez, si vous étiez là ce matin, vous l'avez vu, mais quand même, je vais dire qu'elle est directeur du pôle de modernisation de l'offre de soins à l'ARS Rhône-Alpes. Nous sommes d'accord. Olivier Vierreste est médecin généraliste à Mons en Barœul, et il fait plein de choses intéressantes dont il va nous parler dans un instant. C'est lui l'auteur de l'article « Les médecins généralistes au cœur de la santé mentale », prix FHF 2012, s'il vous plaît. Bravo, on peut l'applaudir. Co-auteur, pardon. Co-auteur. Non, mais c'est bien écrit, parce que j'ai tout compris, alors c'est pas mal. Et puis Jean-Luc Roland, donc voilà, le deuxième psychiatre de l'après-midi, qui est président de la CME de l'EPSM Lille Métropole, et vous êtes par ailleurs collaborateur de l'EMS.
Directeur du centre collaborateur.
Voilà. Ben, vous nous expliquerez ça tout à l'heure, parce que l'OMS a certainement des choses à dire, évidemment, sur tout cela. Par qui on commence ? Tiens, on va commencer par votre voisin. Voilà. Puisque Olivier Vierreste, vous avez écrit un article dans lequel vous vous engagez littéralement sur ce que devrait être demain l'organisation de proximité, en quelque sorte, du suivi donc des problèmes de santé mentale. Avec le rôle du médecin généraliste qui est en première ligne.
Dès qu'on parle, pour faire plaisir.
Approchez un tout petit peu parce que.
Dès qu'on parle de territoire, forcément, le médecin de proximité, c'est le médecin généraliste. Il y en a partout en France. Donc voilà.
Mais, et c'est le rôle du médecin généraliste de se préoccuper de la santé mentale. Vous dites que c'est dans la définition.
Voilà, il y a quand même quelque chose qu'il faut savoir. Moi, il y a des phrases qui m'ont toujours fait rire. Alors, on va repartir pour détendre l'atmosphère. Ma fille rentrait dans une école de commerce il y a une bonne quinzaine d'années. Elle me dit, qu'est-ce qu'il fait ton père ? Il est médecin généraliste. Il fait quoi ? En clair, même nos partenaires directs ne savent même pas ce qu'est notre profession. La médecine générale a été définie en 2002, donc c'est vraiment il y a très peu de temps. Elle est définie par la WONCA au niveau international. Et dans cette définition, on essaye d'enlever l'idée que l'on est, et ça c'est l'idée facultaire, puisqu'il y a très très peu de médecins généralistes enseignants. J'en fais partie, mais je ne suis pas prof, puisqu'il y en a très très peu. Il n'y a que des professeurs associés. Et alors qu'on est la moitié des médecins. Voilà. Donc, on a tendance à nous considérer comme des sous-cardio-rhumato-pneumo-cardiopodes. En clair, quand on prend la tension, non, on n'est pas cardiologue, on n'y arrive pas, on ne sait pas faire. Moi, quand je prends la tension, je fais de l'épidémiologie, je fais de la santé publique, je diminue le risque vital des gens, c'est-à-dire ce qu'on appelle le risque cardiovasculaire global. Quand je vaccine un enfant, je ne vaccine pas un enfant, je ne fais pas de la sous-pédiatrie. Je fais encore une fois de la santé publique afin d'éradiquer une maladie. Voilà notre schéma de pensée actuel. Évidemment, même certains médecins généralistes ne vous parleront pas comme ça. C'est évident. Mais pour l'instant, c'est en ça que va tendre la médecine générale. La définition de la médecine générale, c'est simple. c'est s'occuper des soins primaires, oui, en effet, c'est 15 à 20% de nos axes. C'est faire de la coordination de soins, là, c'est 40% de nos axes. C'est faire de la santé publique. Surtout, qu'est-ce que je fais ici autre que d'expliquer la santé publique en médecine générale. Donc voilà, c'est pour vous citer quelques petits exemples. En clair, quand on parle secteur, et mettre des personnes, des usagers, mais vous ne voulez pas le terme, alors on va parler patients. Hein, en clair, quand les patients sont dans la ville, le seul recours qu'ils aient au niveau médical, c'est le médecin généraliste. Donc la vision hospitalo-hospitalière qui est de laisser le médecin chez lui, le malade chez lui, enfin chez lui, dans l'hôpital, encombrant des lits, coûtant un budget, etc., etc., et on a bien vu depuis ce matin l'orientation que cela prend, mettre les patients dans la ville, les réintégrer dans la société et surtout leur redonner un rôle social. Hein. Après tout, même le médecin généraliste est obligé de se battre pour avoir un rôle social. Donc voilà, on remet les patients dans leur rôle social, dans leur vie. Hein. Les gens sont à l'extérieur. Hein. Et donc le premier recours, c'est le médecin généraliste. On a trois rôles à peu près en psychiatrie. Le premier, c'est le dépistage. Alors, je vais vous reparler du carré de White. Comme ça, on va repositionner les choses. Oui, je sais qu'il y en a qui m'ont déjà entendu dire ça. Le carré de White, c'est une définition des usagers qui a été fait en 1961 par les Anglais et les Américains. Sur 1000 personnes confrontées à un problème médical, 750 en sont conscients. 250 vont consulter un médecin. Et alors, c'est là qu'on va avoir plus de surprises. 9 vont être hospitalisés, 5 vont être envoyés à un autre confrère et 1 va être envoyé à un CHU. Voilà les statistiques, voilà ce qui se passe. Ensuite, d'autres patients. On a parlé d'autre chose tout à l'heure. On a dit le secteur va s'ouvrir. OK, d'accord. Pour vous donner un ordre d'idée, sur un secteur qui est déjà ouvert, c'est le 59G21 dont on a déjà parlé. Sur ce secteur déjà ouvert, on en est statistiquement à avoir fait, il y a eu une étude de fait qui a fait faire un mini, c'est-à-dire un test psychiatrique à toute la population du tout venant. On a chiffré à peu près qu'il y avait 11% de dépressifs, etc., etc. En fait, sur ces 11% qui se sont vus dépister une dépression, il n'y en avait que 40% qui en étaient conscients. Et sur ces 40%, la file active par rapport à ce qu'on attendait au 59G21, on se retrouve à peine à avoir 1,30% des gens qui vont à l'EPSA. Pourtant, dans un secteur déjà ouvert, face à une population donnée. Donc on est vraiment dans les notions de territoire, hein, et il faut s'ouvrir là-dessus.
Alors justement, du coup, vous avez mis en place depuis combien de temps
2002, hein, c'est ça.
2002, avec votre voisin.
Voilà, à l'époque, c'était avec lui. Bon. Maintenant, il a pris un petit peu de
Vous avez mis en place quelque chose que vos collègues ne font pas ailleurs en France, alors si je comprends bien.
Oh, maintenant, on commence à avoir fait déjà quelques petits. Hein. On a fait des communications à Dijon, à Mulhouse.
Et en l'occurrence, aujourd'hui, les psychiatres ne reçoivent plus de patients s'ils ne sont pas passés par leur médecin traitant, c'est ça ?
Tout patient vu à l'EPSM est obligatoirement orienté par le médecin généraliste. Mm-hmm. Alors, ça fait 80-90%, parce que tout à l'heure, on a parlé aussi de l'exclusion de certains patients à partir du moment où on rentre dans cette pathologie-là. On est souvent exclu de la famille, ça c'est vrai. On s'exclut soi-même, hein, que ce soit en psychiatrie, que ce soit en addictologie, on est à peu près dans les mêmes domaines. Et ces gens-là se retrouvent dans la rue, sans secteur de soins, etc. Donc il y a quand même ces gens-là qui vont directement voir l'EPSM, mais le rôle de l'EPSM dans ces cas-là, c'est aussi de les orienter pour qu'ils trouvent un médecin généraliste dans le secteur. Voilà. Et donc il y a toujours une relation avec le médecin généraliste. Donc le deuxième rôle, j'avais parlé tout à l'heure du dépistage en médecine générale, donc ça c'est notre rôle, et de l'envoyer à l'EPSM. Nous, ce que l'on fait, c'est on écrit une lettre. Il y a une consultation dans les 24 à 72 heures ouvrée. Hein. Je sais bien que Jean-Luc... Laurent de Fromont n'aime pas que je dise 24 à 72 heures sans préciser ouvrée. Où il est vu par un infirmier psychiatrique. Et cet infirmier va faire un test pour vérifier un petit peu quel est le risque dominant du patient. Est-ce qu'il a un risque suicidaire? Est-ce que ceci, cela? Est-ce que ça demande une prise en charge urgente ou juste une prise en charge rapide? Par là même, après, il y a des conférences téléphoniques, comment tu peux appeler ça, une concertation téléphonique régulière avec toute l'équipe. Et là, on parle, voilà, tel patient nécessite tel truc, est-ce qu'il faut le prendre en charge en psychologie, en psychiatrie, avec des traitements, etc., nécessite une hospitalisation, voilà.
Et au bout du compte, par rapport au système, on va dire, traditionnel, c'est une meilleure efficacité?
Ah ben, c'est bien simple. On va parler un petit peu aussi tout à l'heure de comment ressentent les médecins généralistes cette attitude-là. Le médecin généraliste est pragmatique face à ses patients. Hein. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il a une possibilité de trouver une prise en charge psychiatrique en moins de 72 heures, je ne sais pas, j'ai d'autres directeurs ici, j'ai d'autres psychiatres. Quel est votre délai d'action face à un appel de médecine générale? Voilà. Et là, vous aurez des surprises, on va dire. Alors qu'il existe dans les accords des secteurs une prise en charge en théorie rapide et directe qui est dans les textes.
Ça a été facile de motiver tout le monde? Vos collègues et puis...
Mes collègues médecins généralistes, oui, sont tous pragmatiques face à leurs patients. Donc à partir du moment où ils ont envie d'avoir... Ils ressentent le besoin d'une prise en charge psychiatrique chez un patient, on n'hésite plus à proposer le PSM parce que on sait qu'on a une réponse rapide. Alors qu'avant, on aurait été gêné, on aurait essayé de les prendre en charge au niveau du privé, mais ils sont tout aussi débordés, et voilà. Et donc, on n'avait pas de moyens. On n'avait pas de moyens de prise en charge rapide.
Alors, dans l'article que vous avez écrit, pour lequel vous avez été primé, vous insistez également sur la nécessité du travail, d'un travail collaboratif plus efficace et de consultations conjointes possibles. C'est quoi ça, les consultations conjointes?
Alors, il y a plusieurs choses. En fait, je ne suis pas... Par contre, là où vous avez raison, je ne suis pas vraiment représentatif de la population des médecins généralistes, même de mon secteur, puisqu'en fait, le but de la...
Et on en remercie... Ça a l'air d'être un euphémisme, enfin, si je, je regarde pour ça.
Et je remercie toujours le directeur de l'EPSM de nous payer un loyer pour nous louer chez nous un bureau, puisque on est dans un cabinet de 7 médecins généralistes. Et en fait, il y a un 8e bureau de psychiatres et on voudrait en créer un deuxième, monsieur le directeur. On est parti pour faire une CISA et on a besoin de deux bureaux. Enfin, ils ont besoin de deux bureaux. Pour faire la consultation des psychiatres se fait dans nos locaux. Alors évidemment, forcément, j'ai aussi un mauvais... Je ne suis pas représentatif parce que, évidemment, les psychiatres buvant le café avec nous, oui. Jean-Luc, c'est le samedi matin.
Je sais pas que ça.
Hein, l'avantage qu'il a, l'avantage que j'ai, c'est que, tiens, t'as vu un tel, qu'est-ce que tu en penses? Il a modifié, j'ai modifié son traitement.
C'est exemple, le contact direct, quoi.
Voilà.
C'est la proximité, c'est la vraie
proximité. C'est la proximité et on prend des décisions thérapeutiques complètes.
Alain Grasset, j'imagine que quand vous entendez ça, vous vous dites... c'est ce qu'il me faut chez moi, non?
Alors, oui, enfin, effectivement, vous avez tout à fait raison, mais on est sollicité pour ce genre de choses.
Alors, je rappelle que vous êtes conseiller communautaire donc de Grenoble Métropole, voilà. et vous êtes chargé de la politique de la ville, c'est ça?
Tout à fait, je suis président de la commission politique de la ville. Alors, il faut peut-être expliquer pourquoi je me retrouve aujourd'hui.
Oui, parce que moi, j'étais surpris,
présent,
effectivement. Il n'y a pas la compétence sanitaire pour l'agglomération. Enfin,
on n'a aucune compétence dans le domaine de la santé et on ne cherche pas à prendre de la compétence dans le domaine de la santé. Mais dans le cadre de la politique de la ville, et c'est important quand même de le dire, c'est ce qui nous intéresse, c'est, je dirais, le public défavorisé, qui est issu de cette fameuse géographie prioritaire, et qui fait qu'effectivement, que par rapport à cette population, il y a aussi une inégalité par rapport à l'accès aux soins, qui est très importante. Et en plus, c'est certainement une population qui a aussi un certain nombre de troubles de santé mentale ou de troubles psychologiques, peut-être plus importants en tous les cas, où il est difficile à un moment donné d'avoir un accès peut-être plus simple. On prend dans la région grenobloise, on a des répartitions de médecins qui sont bien sûr absolument inégalitaires en fonction du territoire, et on s'aperçoit qu'en psychiatrie, c'est encore beaucoup plus présent, puisque par rapport à la psychiatrie libérale, je dirais, on est vraiment centré sur le centre-ville, à l'exclusion de tout ce qui est périphérie, pratiquement, de l'agglomération. L'agglomération grenobloise, c'est quand même important de le dire, c'est 28 communes actuellement qui vont passer à 49, 400 000 habitants, Quand on va passer à 49, on va passer qu'à 440 000 habitants. Donc vous voyez que les 21 communes qu'on prend n'apporteront que 10% de la population actuelle. Ça veut dire, zone de montagne, on élargit notre territoire. Il y a bien sûr une logique de continuité de territoire, puisque dans une communauté d'agglomération, il ne peut y avoir, je dirais, d'absorption ou d'extension que lorsqu'on est sur des territoires qui sont voisins et qui sont contigus à ceux qui existent. Donc il y a une logique de territoire, mais cette logique de territoire, elle est rendue difficile par rapport au fait qu'effectivement, on commence à prendre des territoires de montagne, on monte à 1500, 2000, 2500 mètres. Donc ce qui fait qu'on a une problématique un petit peu différente. Donc, par rapport à ce que vous disiez, pourquoi est-ce qu'on est intéressé, je dirais, par cette journée-là?
Et en quoi la politique de la ville peut apporter quelque chose, effectivement? On peut apporter
tout à fait. Alors, la politique de la ville, dans le cadre des contrats urbains de cohésion sociale qui ont été resignés en avenant en 2009, nous avons effectivement, dans l'agglomération grenobloise, fait apparaître un axe thématique transversal. On en a fait apparaître plusieurs, un sur la jeunesse, mais on a fait apparaître un axe thématique qui était sur la santé. Parce qu'effectivement, il nous semblait important d'avoir un regard particulier par rapport aux populations de ces territoires de géographie prioritaire. En plus, depuis la réforme qui a eu lieu, nous sommes de droit membres, je dirais, des conseils de surveillance des centres hospitaliers. Donc du coup, je me suis retrouvé à être représentant de la communauté agglomération grenobloise au centre hospitalier Alpes-Isère, où je dirais, par rapport à ces fonctions-là, de fait, on est bien sûr obligé à un moment donné de s'intéresser quand même aux sujets qui sont portés par les établissements dans lesquels on se retrouve être membre. Donc je crois que tous ces liens font qu'on peut difficilement ne pas être intéressé par une organisation à un moment donné qui ne dépend pas de nous, mais en tous les cas où on peut être un acteur, dans le sens où lorsqu'on... On a les moyens, à un moment donné, de pouvoir accompagner soit des associations, soit des professionnels pour pouvoir installer un certain nombre de structures qui permettent effectivement un accès aux soins beaucoup plus facilité. Je pense qu'on a ce rôle d'élu à avoir pour pouvoir effectivement, dans le cadre, des politiques de santé publique qu'on peut porter, être à même de pouvoir être un partenaire dans ce cadre-là. C'est ce qu'on essaye de faire. Alors, c'est pas simple. L'agglomération grenobloise, c'est une agglomération assez particulière, une ville-centre pas très importante en poids de population, 35% dans la future configuration, ce qui est relativement faible par rapport à l'ensemble des communautés agglomérations qui puissent exister.
Ça fait combien d'habitants, ça?
160 000 pour Grenoble sur 450 000. Ce qui fait qu'effectivement, par contre, Grenoble est une ville historiquement qui a une politique de santé très affirmée, deuxième CCAS de France, derrière Paris, alors que c'est la 14e ville de France seulement. Donc ce qui montre bien qu'il y a une pratique et une politique sur cette ville qui est importante. Sauf que moi, en tant que conseiller communautaire, je ne suis pas de la ville-centre, vous l'avez bien compris, je suis d'une ville périphérique, et il reste à peu près 300 000 habitants qui se retrouvent un peu à l'extérieur de cette politique qui a été mise en place. Donc comment est-ce que cette communauté d'agglomération, à travers ses compétences, qui sont pour l'instant celles de la politique de la ville, on peut effectivement être acteur, et partenaire de la mise en place de ce genre de politique de santé publique. Je crois que c'est un petit peu l'enjeu qu'on est en train de se poser. Alors, c'est pas simple. On se heurte, effectivement, à des institutions qui sont déjà établies. Je rappelle que dans la politique de la ville, vous avez ce qu'on appelle les ateliers santé-ville et qui a toute légitimité, puisque la compétence politique de la ville a été transférée à la communauté agglomération. Je rappelle que c'est la quatrième compétence obligatoire dont s'est dotée cette agglomération grenobloise. De fait, un atelier santé-ville d'agglomération semble quelque chose de
logique. Qu'est-ce qu'on y fait dans ces ateliers santé-ville?
Alors, c'est des ateliers de coordination. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'intérêt de ces ateliers, c'est que ça permet effectivement d'avoir autour d'une table tous les partenaires qui sont acteurs dans ce domaine-là, qu'ils soient sociaux, qu'ils soient des professions médicales. Donc, c'est très intéressant par rapport à ça, ou tous les partenaires du style ARS qui nous permettent effectivement de coordonner à un moment donné les politiques publiques qui sont mises en place. Il y a aussi les conseils locaux de santé mentale, et je crois que ça aussi, c'est des outils qui sont intéressants. Alors, c'est vrai que pour l'instant, le seul conseil local qui a été mis en place, c'est celui par la ville de Grenoble, qui a comme légitimité le territoire de la ville de Grenoble. Et on en revient à la notion de territoire. Pour moi, le territoire qui, bien sûr, m'intéresse et pour moi prioritaire, c'est le territoire des limites géographiques de la communauté d'agglomération. Alors je suis conscient que ce territoire s'inscrit dans d'autres territoires et qu'éventuellement il est même, je dirais, découpé en plusieurs secteurs ou autres territoires dans certains domaines qu'il faut à un moment donné faire. Mais ce qui n'empêche qu'il y a besoin de coordonner les acteurs de ces différents secteurs ou territoires à l'intérieur même du territoire de la communauté agglomération.
Ça veut dire que vous pensez qu'il peut y avoir des coopérations, même si ce ne sont pas des territoires similaires, quoi. C'est ça que ça veut dire.
Ah bah, tout clairement. À fait. Je pense que là-dessus, le centre hospitalier Alpes-Isère a un territoire qui est beaucoup plus grand que celui de l'agglomération grenobloise. Et pourtant, il me semble qu'on peut être un partenaire, en tous les cas, pour ce qui est du territoire de l'agglomération grenobloise. Donc je crois qu'il y a besoin, effectivement, d'arriver à définir différents strates qui peuvent permettre d'avoir des réseaux où on intervient dans certains domaines.
Alors, j'ai cru comprendre dans les échanges qu'on a pu avoir depuis ce matin qu'il y avait une importance dans la proximité, dans la facilité pour les gens malades ou leurs familles de pouvoir accéder à une réponse. Est-ce que, je ne sais pas, certaines maisons que vous pouvez mettre en place, ou que vous pouvez aider à construire plus précisément, hein, je crois que c'est plutôt sur l'investissement, je pense aux maisons de santé pluridisciplinaires ou des centres de santé, des choses comme ça, vous pensez que ça peut être une partie de la réponse
On est sollicité, c'est-à-dire qu'en tant que territoire, je dirais, de l'agglomération, on est sollicité par des communes ou par des ensembles, je dirais, de professions libérales qui nous incitent effectivement à faciliter la réalisation de ce genre de maisons de santé. Alors, toute la difficulté de savoir dans quelles conditions, parce qu'à un moment donné, je crois qu'il est important aussi que dans le contexte actuel, on arrive bien sûr à trouver et à essayer d'élargir les financeurs potentiels pour pouvoir rendre possible la réalisation de telle ou telle maison. Sachant que la communauté d'agglomération, au même titre que toutes les collectivités, établissements publics, est confronté aux mêmes problématiques, non pas d'économie, mais en tous les cas de raréfaction des financements, il faut que ça puisse s'inscrire dans une capacité, une possibilité politique. Donc là aussi, c'est une question de choix. C'est-à-dire que je crois qu'à un moment donné, on est dans un système où on demande de nous faire des économies. Je crois que les économies, il ne faut pas les faire partout. En tous les cas, moi, en tant qu'élu, j'affirme qu'il ne faut pas les faire partout. Et que la difficulté est peut-être effectivement de mettre en place un certain nombre de réflexions pour nous permettre de faire les choix les plus pertinents et de financer ce qui doit être financé et peut-être de moins financer ce qui mériterait de moins l'être. Bon, j'ai pas de réponse hein, quand je pose ce problème-là, mais je pense que c'est une réponse qu'il faudrait qu'on ait. C'est-à-dire que l'économie que l'on doit faire dans les collectivités, dans les établissements publics, ne se traduit pas par des économies qui sont que des économies comptables. Ce doit être des économies qui résultent de vrais choix politiques. En tous les cas, moi, c'est mon point de vue.
Olivier Vierès, vous voulez rajouter quelque chose?
Oui, il y avait quand même quelque chose qui est important, étant maître de stage universitaire.
Approchez-vous excusez-moi.
Ayant des internes tout le temps avec moi et régulièrement, j'ai remarqué une chose, c'est le manque de leur investissement. Exemple, on voudrait créer une CISA chez nous. J'ai trois de mes anciens internes et ma fille, mais ça c'est un autre problème, intéressés pour venir dans la CISA. Le défaut, c'est qu'ils ne veulent plus investir. Donc si les collectivités, nous on s'est investi, on a acheté des murs, on a acheté etc., etc. Mais en fait, dès qu'on essaye de passer dans un domaine où justement les jeunes arrivent, il faut essayer de les attirer, les jeunes, parce que tout à l'heure, dans l'autre débat, on avait, mais pourquoi il y a des déserts médicaux? Faudrait forcer les internes à aller dans... Non, les internes, ils ont le droit de travailler là où ils ont envie de travailler, et donc il faut plutôt les intéresser à travailler dans un local, peut-être leur donner des possibilités de travailler 3 jours à droite, 2 jours ailleurs, etc., pour essayer de limiter les déserts. Et le non-investissement des jeunes maintenant, puisque leurs moyens ne leur permettent plus, les prêts bancaires n'existent plus, enfin, voilà, il y a tout ça qui joue. Si l'État ne remplit pas ce rôle pour essayer justement, et les collectivités locales ne remplissent pas ce rôle pour justement essayer de recréer ces maisons et recréer une dynamique de territoire de santé, même pas santé mentale, santé tout court, on aura du mal à vider ces déserts et donc et on arrivera avec votre problématique. Alors certaines villes vont. En fait, nous, ce qu'on demande simplement pour que les jeunes arrivent, c'est de créer des locaux et un secrétariat, etc., etc., puisque l'État ne nous permet plus de... On n'a pas obtenu, par exemple, le forfait secrétariat qu'on voulait avoir, justement pour que les médecins puissent gérer ce genre de problématique.
Alors, moi, j'entends ce que vous dites, mais en même temps, ce qu'il faut voir, c'est que ce n'est pas qu'un problème d'investissement. Encore qu'à l'heure actuelle, c'est de plus en plus compliqué quand même d'investir, parce que vous nous dites que collectivités ou établissements publics, on est effectivement confrontés à faire les bons choix. Je crois qu'à l'heure actuelle, et en tous les cas, je parlerai plus volontiers de la commune, elle est sollicitée pour pouvoir, à un moment donné, avoir investir dans plein de domaines, et on ne peut pas le faire. Donc, de toute manière, on est bien obligé de faire des choix. Donc, ça, c'est déjà une première réponse qui limite, je dirais, à un moment donné, la possibilité de le faire. Après, l'autre... On n'est pas que sur des investissements, on est aussi après sur des aides au fonctionnement. C'est-à-dire que si on prend par exemple les différents centres de santé qui existent sur la ville de Grenoble, qui sont des centres de santé associatifs, ils sont énormément subventionnés par la ville de Grenoble même. Et à l'heure actuelle, ils ont de très gros problèmes, je dirais, de financement et de fonctionnement. Et ils sont en train d'essayer de solliciter, notamment l'agglomération, pour pouvoir les accompagner. Donc on voit bien qu'on est dans des situations qui éventuellement posent le problème de la survie de ce genre d'institutions et d'établissements, parce qu'il y a un manque de finances publiques. Je rappelle quand même que les problématiques de santé, c'est quand même de la responsabilité de l'État.
Eh ben, on y viendra avec les représentants dans un instant. On va voir plus large, là, si vous le voulez bien. On fait un test avec le micro, si ça fonctionne. Attendez, voilà. Ça ne l'arsène pas, c'est bon. Donc, je vais y arriver. Je cherche votre nom. Excusez-moi, M. Roland. Jean-Luc Roland. Je disais tout à l'heure, vous représentiez ici l'OMS. Qu'est-ce qu'elle en dit, l'OMS, des territoires, d'une manière générale? Est-ce qu'elle a une vision, elle, de l'organisation des territoires?
L'OMS a une vision de l'organisation du territoire à travers l'offre de soins à procurer à tous les citoyens, évidemment. Et l'OMS demande à ce qu'il y ait un accès aux soins identique pour tout le monde. Donc, automatiquement, vous ne pouvez pas faire ça sur un territoire immense. Alors, ce que dit aussi l'OMS, c'est que nous, on est un pays riche. C'est les 195 pays qui adhèrent à l'OMS. Ça a été rappelé ce matin, il y a des pays où il y a un psychiatre pour 1 million, voire plus, d'habitants. En Mauritanie, actuellement, c'est un psychiatre pour 2,5 millions. Donc, on n'est pas... Il y a toujours un système de santé primaire. Et alors, on a été tout de même étonné de voir que dans l'ensemble des études qui ont été faites dans le monde, le premier recours pour toutes les pathologies, mais surtout pour les questions de santé mentale, c'est le système de santé primaire. Quoi qu'on fasse, et y compris en France, puisque l'enquête SNPG qu'on a menée maintenant sur 85 sites en France et secteurs montre que le premier recours, c'est hormis les amis et la famille, le médecin généraliste pour les questions de santé mentale. Et c'est un problème, donc l'OMS dit, premièrement, soigner au niveau des soins de santé primaire. Premièrement. Voilà, il dit encore bien des choses. Il dit rendre les traitements disponibles. Évidemment, pour nous, en France, c'est plutôt les rendre un peu indisponibles pour les psychotropes et un peu plus disponibles pour les psychothérapies. Donc, c'est un grand débat. On en a parlé ce matin. L'OMS dit aussi qu'il n'y a pas de, politique de santé et de santé mentale, parce que la santé mentale fait partie de la santé publique, sans la participation active des usagers, voilà, et des aidants. Donc, c'est pas que les familles, c'est les aidants. S'ils ne sont pas partie prenante, c'est toute la question de l'empowerment, de l'autonomisation, on en a aussi parlé, s'ils ne sont pas partie prenante des politiques de santé, ce n'est pas la peine de mettre en place une politique de santé fiable. Elle dit encore d'autres choses, hein. Elle donne une quantité d'indications. La France a signé la conférence d'Helsinki, donc pour les 52 pays européens. Actuellement, le plan d'action de la santé mentale pour 2013-2020 vient d'être signé par les 195 pays à Genève. Et vient, la déclinaison au niveau européen vient d'être faite. C'est clairement en faveur de la santé mentale communautaire, très clairement. C'est une fois de plus dire qu'il y a trop d'hospitalisation et de structures d'hébergement au sens large versus les soins et l'accès aux soins pour tout le monde, voilà, versus les systèmes mobiles qui ont été, dont on a parlé tout le temps, qu'il faut un accès immédiat 24 heures sur 24, pour toute personne. Donc après, on trouve les modalités suivant les pays, suivant les possibilités ou pas, suivant les territoires, ça a été très bien dit, et que c'est impossible de faire de la prévention, donc de la santé publique, uniquement les psychiatres. Impossible. Voilà, les psychiatres ne font pas de la prévention, ils y participent. Ça, c'est sûr et certain, on a notre place, moi, je la revendique, mais ce n'est pas nous qui faisons la prévention, c'est toutes les personnes qui luttent contre l'illettrisme, contre les traumatismes, qui font attention à ce que les femmes, les hommes ne sont pas trop battus, qui font attention à ce que les enfants aient une éducation normale, oui, etc., etc., qui sont pour les droits des citoyens, qui font attention aux conditions de vie générales. Chaque fois que vous augmentez chaque fois que vous favorisez le bien-être et le bien-vivre ensemble, eh bien, automatiquement, vous avez une amélioration des situations de santé mentale. Quand vous êtes dans une situation de guerre, vous avez 90% des gens qui ont un PTSD. On l'a fait en Bosnie, on a bien vu ce que ça a donné. Ça ne veut pas dire que les gens sont malades à vie, loin de là, mais ça veut dire que les conditions de vie dans lesquelles elles se trouvent, eh bien, ça peut faire décompenser. Et qui décompense en cas de difficulté, que ce soit des difficultés sociales, des difficultés familiales, c'est avant tout les plus fragiles, c'est avant tout les plus vulnérables. Et quand vous allez dans des lieux... Bon, je ne vais pas parler que d'humanitaire, parce que l'OMS ne fait pas d'humanitaire, je vais même le rappeler, mais quand vous êtes dans des situations de guerre, eh bien, les premiers qui meurent, moi, je suis allé à Tuzla, ils avaient reconstruit l'hôpital, eh bien, il y avait les tombes, c'était les malades, et surtout les malades mentaux. C'est toujours la même chose depuis 1941 avant. Les premiers qui sont en état de fragilité, c'est eux. Eh bien, dans la ville, c'est la même chose. Quand vous avez au niveau de la politique, je fais un détour, au niveau de la politique de la ville, je siège au Conseil national des villes. Donc, il y a un psychiatre au Conseil national des villes. Voilà. Ben, la politique de la ville, quand les CUC sont remontés, qu'il y a eu, quels sont les thèmes prioritaires des populations en difficulté dans les quartiers de la politique de la ville. Le premier thème qui est arrivé, c'est toutes les questions de santé mentale. Voilà. Ce n'est pas nous qui l'avons inventé. On peut balayer la santé mentale en disant il n'y a que la psychiatrie. Dans ce cas-là, autant vous dire qu'on n'a pas fini de recevoir des gens aux urgences parce qu'on n'aura pas fait la prévention. Hein, mais il n'empêche que de partout, c'est ça qui remonte et qui remonte en premier. Et dans l'atelier de santé ville, la même chose. Alors là-dessus, bon, j'en finis avec l'OMS. L'OMS a mis en place, pour une fois, ils ont mis en place des critères. La première fois, donc vous avez les 6 thèmes. Bon, je ne vais pas ramener ici parce que là, le tableau, c'est large et lisible. Pour la première fois, on fait attention. Bon, les droits en psychiatrie, les droits, c'est très important. Donc, ça a bien été dit, parce que vous enlevez la liberté à des gens. Alors, moi, je rigole, d'ailleurs, parce qu'il y a 12 ans, j'ai proposé, avec un dénommé Éric Piel, je ne sais pas si vous connaissez, un rapport au ministre de la Santé, voilà, disant qu'il fallait judiciariser. Alors, à l'époque, ça fait un tollé. Maintenant, il n'y a plus un psychiatre qui est contre la judiciarisation. Je suis assez content de voir ça. Ensuite, on avait proposé les UHSI pour soigner les gens qui ne soient plus enfermés dans les hôpitaux psychiatriques, parce qu'ils étaient encore pire enfermés dans les services de psychiatrie quand ils venaient de prison. Donc les UHSA, maintenant, au moins, ils peuvent respirer un petit peu. Ce n'est pas ce que j'aurais souhaité. Nous, on aurait souhaité qu'il y ait uniquement 10 lits dans les services d'urgence, mais pas faire des trucs de 60 lits, on revient à l'asile. Bon, ça, bref. On avait proposé ça, c'est fait. Et qu'est-ce qu'on avait encore proposé? Que les usagers et les familles soient considérés, soit dans tous les systèmes en France. Je crois que les usagers des familles sont à l'HAS maintenant, sont dans les tables de concertation, sont régulièrement demandés au niveau des ARS et des... Ça y est, je crois qu'on a réussi. Ce qu'on n'a pas réussi, j'ai ressorti les transparents d'il y a 12 ans, c'est impressionnant, c'est le débat d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a 12 ans, on avait tout préparé. Tout était prêt, il y avait les services territoriaux de psychiatrie, il y avait les services territoriaux de psychiatrie territoriaux qui étaient prêts. Il y avait ce qu'on appelait les réseaux territoriaux, un peu ce que fait dans les sud des Yvelines, qui étaient prêts aussi pour que ce soit un peu plus large que le secteur de psychiatrie ou le territoire. On avait tout préparé, et 12 ans, et on avait dit il ne faut plus investir trop dans les structures, ou si on investit, il faut investir, si possible, que les hôpitaux créent des structures dans les hôpitaux généraux pour avoir des lits. On avait tout préparé, et il s'est passé 10 ans où on ne peut pas dire qui est une grande avancée, puisque je retrouve aujourd'hui le même débat qu'on a laissé en jachère. J'ai repris mes transparents, je vous ai fait pitié aujourd'hui, mais j'ai dit, mais je voulais dire des choses intéressantes, nouvelles, etc. Mais j'ai radoté, hein. Radoté. Alors, je suis d'accord avec von Finkenstein, s'il y a une loi qui s'applique, tout le monde l'appliquera. Voilà. Ce qui a manqué, et ce qui manque depuis des années... C'est ce qu'a dit Massé tout à l'heure, c'est on a fait tout est écrit, tout le monde dit la même chose. Donc pourquoi on n'applique pas en France? Pourquoi? Alors quel est le bon territoire?
Vous vous posez la question. Vous vous dites même c'était comme pour le Minitel, quoi. On a fait le Minitel de la psychiatrie. Ouais. Alors, il existait
Alors ça c'est clair pour le secteur, on a inventé le Minitel. Qu'on a inventé le Concorde, si vous voulez. Hein. Donc c'est un échec total au point de vue. C'est le meilleur avion qui existe au monde. C'est un échec complet au niveau commercial, c'est ce qu'on veut. Hein. Le Minitel, c'est ce qu'il y a de mieux, c'est ce que personne n'utilise. Voilà, donc le secteur, on a inventé le Minitel. Tout le monde s'en est inspiré, mais ils ont fait l'Internet. Étant donné qu'ils sont arrivés, que les Anglais sont arrivés 30 ans après le Minitel, ben, ils ont mis tout de suite ça en Internet. Et ça a marché. Je veux dire, qui a gagné au niveau de l'OMS en 2008 ? C'est l'Angleterre. Pourquoi ? Parce que ils ont compris, dans tous les pays qui ont fait la réforme, ils ont compris qu'on ne pouvait pas à la fois investir dans les murs, investir dans le territoire. Il faut choisir. Il y a un choix à faire. Si, à moins d'être très, très riche. Mais si on est très, très riche, on va empiler des systèmes. Je ne sais pas si vous comprenez. On empile les systèmes. En France, on est les deuxièmes en Europe en termes de budget de la santé pour la santé mentale. C'est 12%, hein, pas 8% comme ça a été dit. Les Anglais sont à 14%. On est à 12%. On ne peut pas dire qu'on manque de moyens. C'est mal réparti, ça, je suis bien d'accord, mais ça, on le sait depuis 30 ans. Ça, c'est pas, depuis 30 ans, on sait que c'est mal réparti. Ça a été dit et redit. Voilà, c'est mal réparti. Deuxièmement, les populations ont changé. On a entendu ce qu'a dit la Datar. Donc, ce qu'on avait dit il y a 12 ans, c'est que si on mettait en place cette réforme territoriale avec un conseil d'administration qui serait le conseil local de santé mentale, mais pas comme nous, on l'a mis en place au CSOMS, qui est un outil de prévention. C'est le conseil local qui serait un outil de gestion locale, qui donnerait son avis avec une majorité d'élus et d'usagers dans le conseil. Parce que c'est tout de même, on est au service des populations. On est vraiment, la psychiatrie citoyenne, telle que j'ai essayé de la théoriser il y a 12 ans, c'est pas une psychiatrie de filière qui va faire que quand on a un agrégé, on va avoir une maladie qu'on va mettre une filière avec des moyens. C'est pas du tout ça. C'est véritablement regarder au niveau du territoire quels sont les besoins des gens et y répondre. Et y répondre, c'est pas uniquement y répondre en termes médicaux, mais c'est y répondre en termes sociaux et en termes politiques. Voilà. Donc clairement, donc il faut qu'on arrive à avoir une sorte d'assemblée qui donne les orientations du territoire au niveau micro-local, au niveau de la proximité.
Ça, c'est votre regard à vous. C'est peut-être pas le regard majoritaire des psychiatres.
Écoutez, comme vous dites, quand il y a une loi, quand on a mis en place le secteur...
C'était pour les directeurs, la loi.
C'est la même chose pour les psychiatres. Quand on a mis en place le secteur, je vous rappelle, les vieux psychiatres, moi j'y étais quand on a mis en place le secteur, ils ont fait... Étant donné qu'ils étaient à 1500 contre et 200 pour, il ne faut pas oublier la bande à Bonafé, ils étaient très peu nombreux. Il ne faut pas penser que les psychiatres à l'époque, ils étaient tous aliénistes. Moi, je les ai connus, je les ai tous vus à l'époque, les derniers. Il ne faut pas penser que les psychiatres vont bouger comme ça. Ils vont bouger avec l'air du temps. Enfin, c'est évident. Et le jour, comme a dit Gérard Massé, le jour où on leur a dit, mais écoutez, soit vous restez à votre asile, soit vous faites du secteur, c'est-à-dire vous faites une consultation et vous mixez, et à ce moment-là, vous serez payé un tiers en plus ou je ne sais plus trop quoi. Du jour au lendemain, ils ont fait venir... Moi, j'ai vu voir des quarts de femmes arriver à l'hôpital d'Armentières avec des hommes parce qu'il fallait mixer du jour au lendemain pour que... Voilà. Donc, l'idéologie, bonjour, hein, dans un champ aussi divisé, il faut surtout voir qu'est-ce qui est positif pour la population. Il ne faut pas tenir compte des psychiatres, ni des directeurs, ni de personne, si vous voulez. Il faut voir pour la population... en tant que citoyen, on a notre mot à dire... Mais pour la population, qu'est-ce qui est positif ?
Moi, voilà, je vais faire l'avocat du diable. Oui. Voilà. Vous dites...
Vous êtes le psychiatre.
Non, même pas. Mettons plein d'élus, d'usagers, etc. Est-ce que c'est pas un moyen pour décourager éventuellement, justement, certaines bonnes volontés dans vos domaines d'activité d'avancer ? Parce que, du coup, ça crée évidemment, obligatoirement, peut-être des tensions.
Écoutez, actuellement, les tensions, elles sont là, sans les usagers, sans les... Bon, c'est pas la peine de...
Ah bon ? On est d'autres.
Mais non, mais on est... Il faut pas... On est dans un système... Moi, je suis pour des systèmes publics de santé qui rendent des comptes. Mais qui rendent des comptes pas à n'importe qui. Qui rendent des comptes comment on soigne les gens et la population. Enfin, c'est très clair. Donc, manifestement, pour moi, ça a une autre utilité, tout ça. C'est pas uniquement... C'est rendre des comptes, mais c'est aussi voir ensemble qu'est-ce qu'on peut mettre comme outil de prévention. Parce que moi, c'est tout de même, c'est toujours été la prévention qui m'intéressait. Voilà. Très clairement, la prévention. Qu'elle soit primaire, secondaire, tertiaire. La secondaire, la tertiaire, on peut à rigueur la faire entre médecins. Voilà. Mais les autres, non. La primaire, non. Et même une partie de la secondaire, non. Et une partie de la tertiaire. S'il n'y a pas des logements pour loger les gens, essayez de faire de la prévention tertiaire. Essayez de faire de la prévention secondaire. Donc, de toute façon, la psychiatrie, elle est plus que le champ de la médecine. Le champ de la médecine l'est déjà, mais plus de champ intégré dans le champ social en général, donc dans le champ politique. Donc vous pouvez pas, faire sans ces personnes. Vous ne pouvez pas dire ce qui est bon dans un système de santé sans que les usagers et les citoyens soient, et qu'il y ait un débat démocratique, mais au plus près. Voilà. Nous, on a eu, pourquoi on a eu 150, ben, notre expérience, non, moi, j'y suis plus. Mais pourquoi on a eu 150 logements dans les années 90-2000 Mais parce que les municipalités ont joué le jeu, parce que les usagers ont été là
parce
avec
que
les familles.
Vous disiez même pendant le repas, parce que les maires étaient convaincus. Il fallait mais, d'abord que ce soit les maires.
Fallait, mais le travail efficace, c'est d'aller voir les maires, de les convaincre. C'est mon boulot, ça. Et ça, on ne nous l'apprend pas à la fac. On nous apprend à soigner des gens. Moi, en 10 ans, j'ai fait de la sémiologie, je l'enseigne à la fac. Voilà, donc il faut aller voir les maires, il faut les convaincre, et il faut que ce soit donnant-donnant, gagnant-gagnant. C'est vraiment un truc très simple, hein. Et pas dire, venez, on a besoin de vous, et tout ça. Non, voilà, vous avez des problèmes dans votre population, ok, on va s'y intéresser. Mais on ne va pas tout psychiatriser. Mais on va pas tout. Mais on est mieux les mieux placés pour dire ce qui est du psychiatrique et du pas du psychiatrique. Et puis on est là aussi pour répondre. Voilà. Et en contrepartie, nous on vous garantit qu'on va suivre les gens et même en prendre d'autres en charge s'ils le nécessitent et s'il y a besoin. Mais vous donnez-nous des logements, 150 logements. Le premier logement, ils ont mis 3 ans à nous observer en disant c'est qui ces gens-là, on va regarder. 150 parce que après, si vous avez en place des dispositifs, en même temps vous devez avoir une direction d'hôpital, une CME, tout ça qui suivent. Parce qu'on va faire passer tout le dispositif de soins de l'hôpital où il était dans la communauté. Et dès que vous arriverez à 60% du personnel dans la communauté, ça va changer. Parce qu'automatiquement, s'ils sont là, ils ne vont pas rester à tourner en rond. Hein. Donc il va se passer des choses, il va y avoir des liens qui vont être pris avec le système. Ça va être assez facile, c'est mathématique. Et quand vous êtes à 70%, vous êtes dans un système qui est vertueux. C'est-à-dire que vous arrivez, nous on est arrivé à fonctionner avec 10 lits pour 83 000 habitants. Voilà. Donc admettons qu'il y en ait 3 lits qu'on utilise dans le privé à droite à gauche parce qu'il y a toujours de l'échappatoire, il y a une clinique privée, qu'il y a un ou deux lits qui est en addicto, etc. Allez, 15 lits. 15 lits tout compris. Hein. Et on n'en voit pas. Et depuis des années, on n'a plus de patients chroniques à l'hôpital parce que tout a été géré avec les municipalités et les usagers. Bon. Alors il y a deux trucs aussi que je veux dire, dont moi je suis assez fier. Ça, je ne suis pas fier que le secteur français, qui est la meilleure des inventions, n'ait pas su évoluer. Voilà. Donc, un secteur rénové, je ne suis pas sûr qu'en utilisant le mot secteur, ça change quoi que ce soit. Il faut changer le terme et la conception, tout en gardant les valeurs. La continuité des soins, la même équipe, voilà. La disponibilité, l'intensivité, arriver à être disponible partout, en tout lieu, parce qu'il faut qu'on réponde aux populations. Voilà, donc l'esprit du secteur, il faut le garder. Peut-être sortir d'un secteur qui serait hôpital, l'hôpital de jour, CATTP, CMP. Et, ben, il faut l'ouvrir. Donc il faut trouver une autre conception, un autre mot. Hein, moi, j'avais parlé de service de territoire, service de psychiatrie de territoire, service de santé mentale de territoire. Il faut trouver un autre mot, mais qui garde les fondamentaux. Et puis la deuxième chose, donc ce dont je suis fier, c'est les conseils locaux de santé mentale. Partout où on a séparé l'hôpital de la communauté, des soins qu'on a dans la communauté, où on a séparé le social du psychiatrique, ça a été une catastrophe. Ben maintenant, on me fait faire des conférences un peu partout dans le monde pour expliquer que le secteur, on ne sépare pas ça. Bon, alors on ne sépare pas. Le secteur, c'est vite dit parce qu'il y a tout de même du fait qu'on a un peu loupé la décentralisation. Et que dans la décentralisation est parti tout ce qui est de la réhabilitation sur le Conseil général quand même. Et ça, c'est tout de même, il faut faire attention, hein, parce que si on se retrouve demain avec un système social et un système psychiatrique, on va retrouver les psychiatres enfermés dans le psychiatrique et le social enfermé dans le social. Et ça va être comme au Danemark, une catastrophe. Voilà, très clair. Hein. Donc il faudra qu'on fasse très attention. Parce que dans l'idée des concepteurs du secteur, il fallait aussi qu'on s'occupe de la réadaptation, réhabilitation. Pas seul, mais qu'on s'en occupe. Voilà. On avait un rôle jusqu'au bout, jusqu'à la réinsertion. Mais on ne l'a pas fait. Donc, heureusement que les familles ont été là pour créer le handicap psychique et faire en sorte que les gens soient pris dans la ville. Et normalement, c'était notre rôle. C'était notre travail. Donc, il faut qu'on retrouve une cohésion à ce niveau-là. Donc, ce qui est bien, c'est les conseils locaux de santé mentale. Ça, on a réussi à le faire passer au niveau européen. C'est une création française. Ça, c'est très clair. Il y en a 70 qui sont actuellement en création, créés, et 60 qui sont en création. On dessert actuellement les conseils locaux de santé mentale 8 millions de personnes en France. Donc, ça gagne. Mais ça gagne sur le volontariat. Vous avez bien compris. Hein. C'est-à-dire que ce n'est pas une politique d'État, c'est une politique volontaire. Voilà. Et la deuxième chose dont on est très fier, c'est les GEM. les groupements entre aides mutuelles. Moi, je préférais qu'ils soient tous gérés par des usagers, mais enfin, ça, c'est une petite préférence personnelle, mais il faut un début à tout. Et heureusement qu'il y a eu des associations tutélaires au début, mais il faut lâcher les tutelles, quoi, à un moment. Donc, heureusement, il y a les GEM, et les GEM, ça n'existe pas ailleurs. Dans aucun pays européen, vous avez ça. Donc, quand je représente la France, je dis, on a le secteur, le meilleur système sur papier, mais vous pouvez voir des endroits où on l'a mis en place, quand même, il y en a quelques-uns en France. Attendez, moi, je critique pas les... Il y a une quantité d'initiatives passionnantes en France. Le problème, c'est que l'OMS vit bien pour mettre en place un système de santé mentale, santé publique, il faut qu'il soit global et cohérent. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas dire, j'ai une expérience intéressante pour le travail et avoir un service complètement fermé à l'hôpital. Vous ne pouvez pas avoir un bel hôpital de jour et pas d'équipe mobile qui va et qui réponde aux gens. Donc le système, pour qu'on soit bon, parce qu'il y a une quantité d'expériences intéressantes, il y a un tas de gens qui se mouillent la chemise en France, mais il faudrait arriver à une globalité. Et cette globalité, on ne l'a pas partout. Parce que quand il y a une globalité, ben ça rend des... Quand il y a les GEM, les usagers qui participent au conseil de service, qui que participent au conseil local de santé mentale, quand les élus sont là, quand les services sociaux sont là, ça crée... Et quand il y a un hôpital qui veut bouger et mettre 70% de son personnel en ville plutôt qu'à l'hôpital, mais ça, on a gagné, on a complètement gagné. Moi, je rêve toujours qu'on reprenne la première place en Europe, parce qu'on a tous les moyens, mais on ne les a pas mis en place. Voilà, je terminerai là.
Bon. Vous pouvez l'applaudir, oui, parce que je trouve que... Alors, plus encore vous, Corinne Martinez, hein, encore plus l'applaudir, parce que je pense qu'effectivement, tout ce qu'a dit M. Roland, vous adhérez, quoi. Sur la définition du territoire
ce qui est quand même assez curieux, à mettre en place. C'est que j'y adhérais sans le connaître. Ça fait pas longtemps. Moi, ce que je voudrais dire en préalable, c'est que tout ce qu'on a fait en Rhône-Alpes, c'est pas comme ça le fruit du hasard. C'est que depuis 1998, donc mise en place par Alain Lopez, donc à chaque fois que j'ai l'occasion de le dire, je le redis, il y a eu donc la mise en place d'une concertation avec les professionnels. Donc, tout ce qui est les SROS précédemment et le volet psychiatrique du SROS PRS, c'est le fruit d'une concertation, c'est le fruit donc d'une longue évolution positive, donc d'échanges et de partage. Chacun a sa place sur ce qu'on pourrait imaginer être la meilleure organisation possible sur un territoire. Alors ce matin, j'évoquais les disparités de la région Rhône-Alpes. Bon, c'est sûr qu'on ne peut pas traiter toutes les situations de la même façon. Alors, pour dire à quel point la collectivité rhône-alpine qui s'est associée à l'écriture de ce SROS, à quel point on adhère, bon, je vais reprendre, je vais balayer tout simplement les grands axes du SROS et je vais faire assez court. Donc on a un premier axe qui est le territoire. Ce qu'on demande aux établissements psychiatriques, c'est de réinvestir, et au secteur donc, de réinvestir leur territoire. Alors le secteur au sens donc tout ce qui est ambulatoire, avec la mise en place, je crois que là on a quelques personnes qui peuvent en témoigner, quand les acteurs arrivent avec un projet, bien ficelé avec les engagements des uns et des autres, par principe, il n'y a pas de difficulté à obtenir le financement qui va avec. À titre d'exemple, ce qu'on est en train de mettre en place, alors dans le champ de l'ARS, hein, bien sûr, c'est on est en train de lancer la construction d'une maison de santé pluriprofessionnelle avec un hôpital de jour attenant à la porte d'un centre hospitalier dans une zone rurale. On a mis en place donc toutes les équipes mobiles mixtes. Ce qu'on attend maintenant, c'est de pouvoir les évaluer et de pouvoir là aussi les décliner en fonction. Je crois que ce qui est important, c'est d'observer les forces en présence sur un territoire et saisir l'opportunité d'une concertation qui va aboutir à un projet et porter. C'est ça.
Deux mots sur les équipes mobiles mixtes, elles sont composées de qui ?
Ah ben c'est ce que.
C'est la même.
C'est celle dont on vous
a parlé. Ah oui, celle dont on parlait tout à l'heure.
Tout à fait. Avec les équipes donc de gérontologie, je les ai évoquées ce matin, où là c'est du MCO et de la psychiatrie. Donc, sur réinvestir le territoire, donc la stratégie et tout, tout ce qu'on poursuit et dit en allant donc au plus près des acteurs, c'est de leur dire profiter de toutes les opportunités qui se présentent. Il y a donc un centre de santé, il y a une maison de santé pluriprofessionnelle qui se met en place. Prenez contact et s'il faut essayer de faire en sorte donc d'entrer dans ce dispositif pour que sur un point donné du territoire il y ait une réponse globale et au niveau du premier recours. Donc, voilà,
vous avez évoqué tout à l'heure l'évaluation. Comment peut évaluer justement la réussite de ces dispositifs?
On démarre. Mais l'évaluation, c'est très simple.
Approchez-vous un tout petit peu du micro.
L'évaluation, c'est très simple. On va regarder le nombre de passages aux urgences, le nombre de... c'est les quelques indicateurs qu'on a positionnés dans le SROSS. Il n'y en a pas beaucoup. C'est le taux d'hospitalisation en soins contraints. C'est le nombre de prises en charge en urgence. Bon, puis c'est le rapport. Donc, on voudrait arriver à une ambition folle à la fin de ce schéma, donc d'arriver à faire passer la tranche 60-40 à 50-50 au profit donc de l'ambulatoire. Ce sur quoi on travaille également, je ne vais pas pouvoir en parler beaucoup parce que ce n'est pas encore validé, mais on est en train de travailler à la rédaction d'un contrat local de santé avec un volet santé mentale à partir donc d'un CLSM, un conseil local de santé mentale. Donc là aussi...
C'est quoi un contrat de santé?
Alors un contrat de santé, c'est entre, on va dire, beaucoup de personnes... les communes, les collectivités locales, l'ARS, les établissements, c'est aussi les services de l'État. Et donc, pouvoir définir des axes de coordination, voire même des accompagnements, donc pour être vraiment au cœur de la prévention et essayer de mettre en place des dispositifs qui vont répondre aux préoccupations des élus. Donc, on l'a vu, il y a la préoccupation de la santé des populations, mais pour travailler beaucoup plus sur la psychiatrie, c'est comment mettre en brèche la notion, la peur, la question de la dangerosité des patients. Si on veut les faire revenir au cœur de la cité, il y a une forme d'éducation à apporter aussi.
C'est là que les politiques ont leur rôle à jouer aussi. Pas que, mais
côté. C'est tout à fait...
Oui, avec une complexité quand même, parce que ce que parle madame, c'est intéressant, mais en même temps, le tout, c'est de savoir à quel niveau on discute avec les politiques. Et c'est ça où ça complexifie un peu les choses. À l'heure actuelle, elle est en train de discuter, notamment avec des villes, avec des maires. Or, il y a une communauté d'agglomération qui a aussi cette réflexion, qui est d'une certaine manière, je dirais... Non, c'est Saint-Martin d'air.
Non,
Saint-Martin
c'est
Ah oui, d'accord. Parce qu'il y a cette réflexion, et il me semble intéressant, à un moment donné, de savoir mettre, je dirais, tout le monde autour de la même table. Et je dis bien au même moment. C'est-à-dire qu'il y a besoin d'une simultanéité. Et je crois que ça, c'est ce qui manque encore à l'heure actuelle.
Donc, il faut caler les niveaux...
Par exemple, la question des logements, c'est sûr qu'on a besoin de rassurer... les autres pour qu'ils puissent donc accueillir. Et tout ça, donc, ça procède d'un cercle vertueux, comme on espère y arriver. Donc, il y a le volet, donc, vraiment réinvestir la proximité. J'irai très vite sur le développement des prises en charge pour les pathologies et les populations spécifiques. Moi, je voudrais quand même dire que les adolescents, certes, ce n'est pas une maladie, mais il faut être hyper vigilant. Et il faut que c'est le moment où beaucoup de choses peuvent se passer, et c'est là où la prévention doit se mettre en place. Si on prend en charge plus tôt, c'est meilleur pour la personne et pour toute la société. Autre volet, la formation. Donc vous verrez demain Karine Lecomte qui travaille avec moi sur le sujet, la mise en place du centre ressources sur les métiers de la psychiatrie, et un volet donc évaluation. Alors, pour assurer Monsieur Collet, le contrôle de gestion, on l'a mis en place dans un espace de liberté avec l'ensemble donc des contrôleurs de gestion des établissements de santé et avec des DIM, et on y travaille depuis 2007 pour approfondir la connaissance des coûts, et c'est un programme de travail collectif. Et enfin, la recherche. Et la recherche, donc, on a basé vraiment sur ce PRS, on a mis l'accent sur les centres ressources de soins de réhabilitation, qui sont absolument indispensables pour éviter la chronicisation et pour préparer la sortie. Et pour, donc, là aussi, mettre un pont, faire un pont entre la prise en charge de réhabilitation médico-sociale et le soin de réhabilitation. Donc, là aussi, on travaille là-dessus.
Bon, on comprend que le programme est un peu chargé, hein.
C'est pour demain. Enfin,
d'accord.
2014.
Jean-Yves Le Callec, vous allez peut-être nous apporter, vous, votre témoignage sur ce qui se passe du côté du Languedoc, Roussillon.
Oui, alors...
Approchez aussi, pareil, du micro, s'il vous plaît, parce que je pense que c'est terriblement difficile, dans le fond, de bien entendre.
Donc, le sujet de la santé mentale ne se résume pas aux SROSS. Effectivement, quand on a créé les ARS, on nous a demandé très rapidement de sortir des SROSS, et on l'a fait, mais le SROSS, c'est l'antithèse de l'ARS, parce que c'est un schéma isolé sur une offre de soins, alors qu'on parle d'offre de santé. Et effectivement, c'est tout le débat qu'on a actuellement. Il y a effectivement des schémas qui organisent l'offre sanitaire, mais la santé, elle va au-delà de l'offre sanitaire. Et le SROSS, il est assez hospitalier quand même, c'est l'équipement hospitalier. Et notre volonté aujourd'hui, c'est que ce SROSS puisse s'intégrer comme une brique au milieu d'un ensemble au sein duquel il y a des dispositifs plus innovants, comme les contrats locaux de santé, qui sont pour nous une des bases de notre travail. On couvre aujourd'hui avec des contrats locaux de santé 30% de la population de Languedoc-Roussillon. Et là, ce qui nous est nécessaire pour bâtir un contrat local de santé, c'est des priorités, mais ça, elles sont définies dans notre plan stratégique régional, qu'on a élaboré à partir d'un premier élément, c'est-à-dire qu'on a interrogé les 1500 maires de la région par mail pour savoir quelles étaient leurs priorités en matière de santé. C'était intéressant d'avoir leur perception. Et ce qui est sorti en premier, c'est la santé mentale.
Et décidément, oui, partout.
Et notamment la santé mentale des ados.
Des ados,
oui.
D'accord.
Alors, on s'est dit, on a eu une approche, bon, on a essayé de comprendre. Bon, effectivement, ce n'était pas une surprise totale, mais tout de même, on s'est dit que, bon, effectivement, qu'en tant que maire dans un village, puisque, bon, évidemment, comme on interrogeait le maire de Montpellier comme celui de Saint-Gély-du-Fesc, il y avait une prédominance rurale. Et on s'est dit, effectivement, ces maires, au quotidien, ils sont quand même confrontés à des problèmes concrets pour eux, hein, qui sont des problèmes liés à la santé mentale, la crise, l'hospitalisation d'office, mais aussi les adolescents qui dégradent ou qui se dégradent. Enfin, peut-être ces sujets-là les intéressent. Donc, les intéressent et même les angoisses pour certains. Donc, on a mis dans nos priorités, effectivement, la santé mentale des adolescents, et on le retrouve dans nos bases de nos contrats locaux de santé. Ça veut dire qu'il faut qu'on trouve des porteurs politiques locaux. Vous dites la santé n'est pas de votre compétence, au sens très républicain, oui, peut-être, mais bien entendu que tout ce que vous faites dans votre politique de la ville concourt à l'amélioration de la santé de vos citoyens. Le soin n'est pas de votre compétence, mais la santé, oui. Et nous, notre sujet, c'est de lier le soin et la santé. Et ça, on ne le fera pas tout seul. On le fait avec les conseils généraux, on le fait avec les communautés d'agglos. Ou enfin, après, on est face à un millefeuille. Hein. C'est un peu notre problème. C'est le problème de la France aujourd'hui, où on voit bien qu'il y a une trop grande pluralité des interlocuteurs au niveau des collectivités territoriales. Nous, on a une approche pragmatique. Et comme on a une approche pragmatique et qu'on travaille d'abord avec les gens avec qui ont envie de parler avec nous, mais c'est sûr que c'est pas suffisant à long terme. Hein. Il faudra aussi travailler sur les territoires où on n'a pas d'interlocuteurs, mais bon, on va un peu à la facilité quand même, et on travaille là où il y a des animateurs politiques. Et là où on trouve des animateurs, on trouve de la cohérence, parce qu'au final, autour de ces contrats locaux de santé, il y a un interlocuteur principal, et donc le territoire qui correspond à cet interlocuteur principal, et puis il y a tout autour, hein, il y a le Conseil général, il y a la région qui intervient, parce que la région, elle est préoccupée notamment par les certifications médicales. Et elle est un partenaire. Le département, à plusieurs titres, parce qu'il y a évidemment ses compétences en gérontologie, mais il y a aussi des sujets qui sont les... Rien que le sujet du SDIS, qui ne paraît pas très, très directement lié à la santé, nous a permis de trouver des solutions par rapport à une des problématiques que vous avez évoquées, monsieur, qui est la réponse 24 heures sur 24. On n'a pas les moyens de construire une réponse ad hoc 24 heures sur 24 à chaque discipline médicale. Mais par contre, dans une conception globale de ce qui est une permanence des soins, il y a la ville, il y a l'hôpital et il y a des vecteurs. Et il faut que tout le monde s'y mette parce qu'on n'est plus dans un pays qui peut se permettre de développer une offre inconsidérée.
Alors, y a-t-il des expérimentations sur votre territoire aussi ?
Oui, il y en a. Enfin, dans le sujet de la réponse, et de la, on a un territoire qui s'appelle Cœur d'Hérault, où on a bâti un système où il y a, au sein du même contrat local de santé, la réponse à la permanence des soins avec un lien entre l'hôpital local, le SDIS, la permanence des soins ambulatoires, maison médicale de garde et maison de santé pluriprofessionnelle, et la santé mentale avec les CAMS, l'hôpital de jour du CHU. Et là, on voit bien qu'un CHU, comme le CHU de Montpellier, qui est un des plus gros établissements du pays, peut apporter une réponse à un niveau très local à partir du moment où on pose bien la question, et il a été très adhérent. Et là, on voit qu'on a fait un contrat local de santé global où tout se tient à peu près. Alors, c'est un exemple qui est un peu trop beau pour être complètement illustratif, parce qu'on est sur un micro-territoire et qu'on a une synergie extraordinaire. Et en plus, c'est un projet qui a été porté au départ par des acteurs locaux, des gens qui sont venus nous voir, qui se sont constitués en collectif avec des élus, des médecins, des usagers, en disant on a un certain nombre de problèmes sur un territoire.
Micro-territoire de quel ordre ?
Oh, un territoire de 70 000 habitants autour de Clermont-l'Hérault, l'Audève. Moitié montagne, moitié pas très urbain, mais en même temps avec des problèmes de périurbanité, puisqu'il y a une autoroute qui les met à une demi-heure de Montpellier, et avec des populations urbaines, le phénomène de la ruralité, c'est-à-dire des populations urbaines qui viennent s'installer parce que finalement on a raccourci les distances. Donc une spécificité qu'on peut retrouver ailleurs. Mais en même temps, une désertification médicale, plus beaucoup d'offres sanitaires, des médecins généralistes inquiets de ne pas se trouver de successeur, et d'assurer la permanence des soins en étant de moins en moins nombreux, ce qui est quand même un sujet d'angoisse. Et on sait bien qu'effectivement, vous le disiez, monsieur, la santé mentale, ça fait partie d'une bonne partie de l'activité des omnipraticiens. 30%, c'est pas rien. Et donc, évidemment, que le secteur psychiatrique, en tant qu'instrument performant, ne peut pas tourner le dos à la médecine générale, qui est son relais naturel, ni à la médecine universitaire d'ailleurs, mais bon, il faut arriver à trouver une cohérence là-dedans. Donc au final, le SROSS est un peu un exercice obligé dans lequel il n'y a pas toutes les réponses. Au-delà du SROSS, il y a des dispositifs auxquels le monde sanitaire n'est pas encore accoutumé et qu'il devra porter avec des acteurs qu'il connaît, mais avec lequel il n'a pas toujours l'habitude de travailler très en profondeur, qui sont les collectivités territoriales, la médecine de ville, et le social et l'éducatif. Parce que, aussi, par rapport à la santé mentale des ados, il y a un rôle extrêmement important de l'éducation nationale. Et là, on a du mal un peu à les tirer, parfois.
Bien. Merci de ce témoignage. Je suis désolé, j'accélère un peu le mouvement, parce qu'effectivement, on a promis de rendre à 17h45, hein, si je le dis, pour que chacun puisse récupérer... pour ceux qui en ont des trains. Puis je crois qu'il y a surtout une assemblée générale à 18h, c'est ça, ouais, c'est oui. Ça. Bien, donc, Isabelle Prade, j'imagine que le ministère a dû être heureux d'être invité à cette réflexion sur le territoire et l'offre de soins en santé mentale.
Oui, merci. Bien évidemment, le ministère a été heureux de pouvoir saisir l'occasion de vous entendre essentiellement. Alors, on se doute bien que quand on se présente devant vous, on est là essentiellement pour vous entendre, mais aussi pour vous dire un certain nombre de choses, au moins interagir avec les débats qui ont enrichi cette journée. J'ai donc prévu de vous dire quelques petites choses sur la question qui était posée, hein, c'est-à-dire du secteur au territoire de santé mentale, point d'interrogation. Mais en préalable, je voudrais vous dire combien ce que j'ai entendu aujourd'hui me fait apparaître ce que nous essayons de défendre à l'heure actuelle, hein, au niveau tant de la DGOS que de l'ensemble du ministère de la Santé, jusqu'au cabinet de la ministre et à la ministre elle-même, parce que je vois qu'à partir d'un sujet sur le territoire, eh bien, vous en avez fait un sujet sur quelle est la place de la psychiatrie dans le système de santé et quelle est la place de la psychiatrie dans la santé mentale, puisque, bien évidemment, comme vous tous, manifestement, nous sommes persuadés que la psychiatrie ne résume pas la santé mentale à elle toute seule et que, bien évidemment, la santé mentale, donc, ne se résume pas non plus à la psychiatrie. Donc, finalement, je pense que l'ADESME a posé le sujet à partir de la question du secteur qui a été comme une sorte d'abcès de fixation, on va dire, ces dernières années, les pros, les anti, ceux qui voulaient le garder, ceux qui voulaient le dépasser. En fait, ce qu'on voit, c'est que ce n'est pas forcément le sujet, enfin, pas forcément le sujet fondamental. C'est vrai que la question, la vraie question qui se pose à nous aujourd'hui, où une opportunité nouvelle quand même se dessine grâce aux annonces de la ministre concernant la stratégie nationale de santé, cette occasion de réfléchir sur l'avenir de notre système de santé dans le cadre de la prise en charge psychiatrique et de santé mentale, on a la sensation au ministère que c'est vraiment le moment, qu'il ne faut pas la louper. Et qu'il ne faut pas surtout se perdre dans des débats sur les outils. Je mets le secteur, le territoire, entre guillemets, dans les outils aussi. Mais d'abord, parler des fondamentaux. Et les fondamentaux, c'est les orientations stratégiques d'une offre de soins. À la DGOS, c'est notre sujet, mais pas que d'une offre de soins, puisque... La santé ne se résume évidemment pas à son offre de soins, même si l'offre de soins est évidemment structurante. Donc, pour vous dire qu'effectivement, nous sommes persuadés que le moment est venu que la communauté des acteurs autour de la psychiatrie et de la santé mentale est en attente, en demande. Et donc, vous savez que la ministre s'est engagée dans une réflexion. Les travaux ont commencé autour de la stratégie nationale de santé, dont la santé mentale est un des 29 chantiers, mais est classé dans les chantiers prioritaires. Donc, cette occasion, je vous y convie. J'y convie, bien évidemment, les directeurs d'hôpitaux, dont j'ai été, et dont je connais le rôle déterminant donc, dans l'impulsion qu'ils peuvent donner. Je pense que sans eux, les choses se font pas suffisamment bien. Ils ne peuvent pas tout, mais ils ont quand même un rôle déterminant dans l'impulsion des établissements. Alors, sur le thème précis de la journée d'aujourd'hui, M. Roland disait qu'il radote depuis plus de 10 ans. Moi, je vais avoir l'impression de radoter après vous tous, parce que je pense que ce qui me paraît clair, c'est qu'on est à peu près en phase à la DGOS avec l'essentiel de ce qui s'est dit aujourd'hui.
Vous me permettrez de remarquer que, visiblement, tout le monde est d'accord. C'est écrit depuis longtemps dans les textes aussi, tout ça.
Par exemple, je ne suis pas forcément certaine que tout le monde... était d'accord.
Ah, d'accord, c'est
je ne suis pas sûre alors. Que tout le monde soit encore d'accord.
D'accord.
c'est un sujet, là, pour le coup, dans le réseau santé mentale Invin Sud, que vous avez cité, M. Roland, et dont j'ai assuré la fonction d'administrateur du groupement de coopération sanitaire, nous avions l'habitude de dire que 10%, c'était suffisant pour faire basculer 10% de volontaires sur un territoire suffisait avec quand même beaucoup d'énergie. Hein, mais
et donc, il n'y avait pas 10%, c'est ça que ça veut dire alors.
Avec beaucoup d'énergie. Voilà. Aujourd'hui, on peut espérer qu'on a à peu près ça dans le panier. Pour autant, voilà, je crois que de dire que jusqu'à maintenant, on était d'accord, que depuis 10 ans, on est d'accord, voilà. Mais ce n'est pas, voilà, c'est pas une critique. Hein. Il a fallu du temps pour maturer. Il a fallu aussi que tout le système de santé évolue. Et aujourd'hui, la psychiatrie... contrairement à sa réputation, n'a pas forcément à précéder en 1960 et a peut-être été un peu en retard ces dernières années, mais il n'est jamais trop tard pour s'y mettre. Hein. Alors, à la DGOS, nous sommes bien évidemment persuadés qu'il faut garantir, et on entend ça la demande des usagers, il faut garantir des soins de proximité dans le champ de la santé mentale, mais dans un objectif global qui est celui de la gradation des soins. Il y a une main qui se lève depuis tout à l'heure, je ne sais pas. Pour après. Donc, la proximité de l'accès de toute personne qui est domiciliée sur un territoire d'intervention d'un établissement de soins de psychiatrie, c'est la moindre des choses que l'on puisse garantir. On doit aussi garantir que sur les territoires est assurée la mission de service public confiée à certains établissements concernant la prise en charge des soins sans consentement. Donc, définir des territoires opérationnels, c'est une nécessité, c'est essentiel pour la réponse aux besoins des personnes qui sont atteintes de troubles mentaux. Pour autant, nous sommes également convaincus que ces personnes atteintes de troubles mentaux doivent pouvoir aussi bénéficier de l'ensemble de la palette des soins qui sont adaptés à leur état de santé. Et ça impose régulièrement, les secteurs le savent très bien, si tant est qu'il y a encore des secteurs, les organisations, en tout cas, le savent très bien, cela impose régulièrement de dépasser l'offre disponible sur le territoire dont la personne est censée ressortir. Et ce besoin de dépassement de l'offre de ce territoire, il tient à la mise en œuvre de soins spécifiques. On en a eu des exemples cités aujourd'hui, hein, dont chaque équipe de proximité ne peut pas disposer intégralement. Tous les secteurs ne prennent pas en charge les troubles obsessionnels compulsifs, les troubles des conduites alimentaires. Tous les secteurs n'ont pas d'unité pour malades difficiles, d'unité mère-bébé, d'unité pour adolescents, et j'en passe. Hein. Mais également, ces dépassements viennent aussi des questions d'organisation de la prise en charge pour lesquelles la mutualisation territoriale est seule efficiente. Et dans ce deuxième cas, les prises en charge peuvent être effectuées en proximité, mais nous avons besoin d'équipes spécialisées, soit pour faciliter l'accès, soit pour organiser les relations avec tous les acteurs à un niveau pertinent pour ces derniers, parce que dans nos acteurs aussi, et monsieur l'a dit pour les collectivités locales, il y a des territoires pertinents pour les partenaires de la santé mentale. On a besoin de ce type d'organisation pour tout ce qui est, et vous les avez créés, hein, le rapport de l'adresse de 2010 le démontre avec brio, des centaines d'équipes spécialisées, pour les personnes en situation de précarité, pour les relations avec le champ médico-social, pour la prise en charge des personnes âgées. On voit bien que le secteur proprement dit, tel qu'on l'a entendu jusqu'à maintenant, s'est dépassé depuis longtemps. Et donc, la psychiatrie, la santé mentale aujourd'hui, si elle a été précurseur dans l'intégration de la dimension territoriale au service de la continuité des soins dans toutes ces dimensions, on voit bien que cette problématique est maintenant partagée, et c'est pourquoi le système de santé a évolué parallèlement, a rattrapé d'une certaine manière la santé mentale, puisque cette problématique est partagée par l'ensemble des patients souffrant de maladies chroniques. On n'a qu'à se reporter pour le constater dans l'ensemble des plans de santé publique. Hein, et nous travaillons actuellement dans le bureau R4, chargé de la santé mentale, mais pas que, à tous les plans de santé publique. Tous ceux qui sont en train de sortir prennent en compte les mêmes questions que celles qui se posent à la santé mentale. Il faut bien reconnaître aussi que la loi de 2005 a induit un développement significatif de nouveaux acteurs dans la prise en charge de patients qui souffrent de handicap psychique, les DSAVS, des SAMSA, les maisons départementales des personnes handicapées, tout ce petit monde œuvrant désormais aux côtés avec et en lien les équipes des équipes de psychiatrie. Parallèlement, on voit bien aussi que la place centrale du médecin généraliste pour accompagner les patients qui souffrent de maladies chroniques s'impose totalement. Et cette place du médecin généraliste, elle doit être réfléchie en psychiatrie pour que chaque patient y trouve une prise en charge globale de ses troubles, y compris somatiques, mais aussi trouver, et on en parlait à l'heure du déjeuner, trouver la place aussi qui revient au médecin généraliste dans le pilotage du projet de soins pour ces troubles psychiques de ses patients. La psychiatrie doit donc repenser son organisation territoriale, y compris en proximité, et dans un cadre qui associe l'ensemble de ses partenaires et qui tient compte des besoins de la population. Et ceci fait écho à ce que disait le docteur Roland tout à l'heure, puisque la psychiatrie doit aujourd'hui, effectivement, plus qu'hier, aller jusque à la prise en charge des problématiques de réinsertion et de réhabilitation sociale. Et puis finalement, la psychiatrie doit continuer d'innover dans l'approche territoriale des soins. Elle a été la discipline précurseur du modèle de prise en charge décloisonné entre les champs sanitaires, social et médico-social. Ce modèle, je le disais tout à l'heure, s'étend depuis quelques années progressivement à l'ensemble des maladies chroniques. Et pour nous, il est essentiel que la psychiatrie continue d'en faire évoluer l'intelligence de ce modèle, d'autant qu'il est parfaitement adapté de notre point de vue aux besoins de cohérence dans la prise en charge de personnes qui ne sont pas vraiment en demande, on l'a dit tout à l'heure, et pour lesquelles, en conséquence, l'impératif de coordination organisée est majeur, et ce, sur l'ensemble du parcours de santé. De plus en plus, les approches territoriales des questions de santé convergent vers la notion de territoire opérationnel pertinent pour un projet. Les travaux en cours sur le service territorial de santé au public que Madame Touraine a annoncé dans son discours sur la stratégie nationale de santé confirment aussi que, à l'heure actuelle, à moins que Madame de Victor n'ait pas entendu la même chose que moi, mais que les acteurs concertés se retrouvent, semble-t-il, dans un consensus autour de la notion de territoire de projet et considèrent globalement qu'il n'y a pas lieu de prévoir des normes plus contraignantes. Alors j'ai quand même entendu dans cette journée cette demande apparemment contradictoire d'un cadrage à minima qui préserve la liberté locale. Avec cette prudence également d'assurer, notamment pour les usagers, la lisibilité du système. Ça me paraît parfaitement entendable. J'ai entendu aussi l'attachement des usagers à cette notion de secteur anciennement entendu. J'ai entendu que cet attachement, c'est essentiellement la réponse aux situations de crise et d'urgence, au service public territorial, avec dans l'idée que jusqu'à présent, effectivement, le secteur, et c'est bien le cas, a assumé, a assuré ces deux réponses, ces deux types de réponses. Pour autant, si on peut entendre la demande qui est parfaitement légitime, c'est un objectif que d'assurer cette réponse, la liberté éventuelle d'organisation autour de d'autres types de territorialisation reste effectivement ouverte.
Est-ce que vous avez entendu beaucoup d'autres choses?
Dernière phrase, j'ai retenu également l'idée que si le secteur n'était plus nécessairement le territoire de référence incontournable, inévitable de la santé mentale, il fallait en conserver les valeurs.
Merci pour cette mise en perspective et puis éventuellement ces quelques réponses peut-être.